Le grand témoin. Bonjour, heureuse de vous retrouver en ce dimanche pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin dans ce studio avec moi, Trifon Kinkei Mulumba. Il est professeur d'université, journaliste, homme politique, actuellement il est ministre des Relations avec le Parlement. Monsieur Trifon Kinkei, merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Alors avec vous dans notre entretien, nous allons vous présenter aux auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger. Grâce à notre site internet www.radiookapi.net. C'est vrai, Kinkei Mulumba, c'est pas un nom inconnu, mais nous, on va aller dans les plus petits détails de votre vie, professeur Kinkei Mulumba. On va commencer d'abord par votre enfance. Ça remonte quand même à très loin. Vous êtes né en 1949, si je ne me trompe pas.
Exact.
Dans l'ex-province.
Si mon père s'est trompé.
Dans l'ex-province du Mandundu.
Exact.
Où précisément?
Dans un petit village qui s'appelle Kindambi, dans le territoire de Massimanimba, actuelle province du Kwilu.
Où vous avez été élu deux fois comme député national.
J'ai été élu deux fois et j'ai un fief. Il y a très peu aujourd'hui au niveau de l'Assemblée qui ont un fief.
C'est là où vous avez grandi?
J'ai grandi là-bas avec mon père qui a été un magasinier très connu dans le Massimanimba, dans le Kwilu, parce que il a exercé un peu comme les fonctionnaires, tout le temps mutés, allant d'un site à un autre, si bien que ça, c'est l'avantage que j'ai par rapport à plusieurs autres personnes.
Et c'est là où vous avez fait vos études primaires, secondaires?
C'est là où j'ai fait mes études primaires, secondaires, que j'ai terminées au collège Albert Ier à Kinshasa. Chez les jésuites.
Vous avez une licence en journalisme?
J'ai une licence en journalisme, j'ai une licence en sciences politiques.
De quelle université?
Paris 1, Sorbonne, Panthéon. Et j'ai un DA, toujours à la Sorbonne, Panthéon. Et j'ai un doctorat en sciences politiques, option communication politique, toujours à Paris, Sorbonne, Panthéon.
Pourquoi avoir choisi le journalisme?
Par hasard. Quand je suis arrivé à Kinshasa, eh bien, j'ai rencontré un homme qui était professeur dans nos instituts ici à Kinshasa et chez qui un Égyptien, Libanais-Égyptien, qui était très marqué dans le journalisme, qui avait des contacts importants à certaines heures perdues. Je dois même dire tous les soirs, il allait travailler chez Mpanoumpano Bibanda, Raphaël, le patron du Progrès.
Et vous avez exercé aussi?
Exact. Et c'est comme ça, quand il a vu que j'étais, je faisais montre d'une certaine brillance, que je faisais montre d'une certaine logique, il m'a dit, mais qu'est-ce que ça vous dirait de m'accompagner tous les soirs dans cette rédaction du Progrès? Aussitôt arrivé, eh bien, écoutez, j'ai pris goût. Et au moment où j'étais au collège Albert Ier, j'allais tous les soirs travailler au Progrès. Et je dois dire que dès le départ, Mpanoumpano Bibanda, toujours en vie aujourd'hui, a dit, mon petit, tu seras un grand.
Et c'est ça qui vous a donné le goût de la presse écrite.
Exact.
Vous avez été correspondant de l'agence Reuters.
11 ans. C'est ça vraiment qui a fait ce que je suis aujourd'hui. J'ai été ce qu'on appelle éditeur à Reuters après avoir travaillé à Londres. Parce qu'après mes études à Paris, je suis descendu à Londres sur Tottenham Court Road où j'ai travaillé comme senior editor dans une revue Afrique, la version française d'un groupe de presse nigérian, un très grand groupe de presse. Et c'est là où j'ai eu mon contrat à Reuters qui m'a amené ici. Je suis revenu à la fois comme professeur à l'ISTI, également comme éditeur à Reuters, mais j'ai été l'un des deux staff de Reuters à être à la fois éditorial et commercial.
Vous avez travaillé dans plusieurs maisons de presse, hein, la Cité Progrès, Salongo ici,
voilà.
Là aussi.
Après,
vous décidez d'ouvrir votre maison de presse. Hein.
Voilà. Avant justement d'aller en France, Je vous ai parlé de, du progrès, mais il y a eu, sous Mobutu, des réformes au niveau du secteur de la presse. Il y a eu des fusions. Le progrès qui était devenu Salongo avait fusionné avec Étoile qui était devenu Miyoto. Nous, on a perdu notre patron qui était devenu membre du bureau politique et du comité central du MPR, Mpanoupanou, mais on a conservé le directeur Bondon Sama avec les deux journaux ayant fusionné.
Alors parlons du Soft, c'était un journal financé par le régime Mobutu ?
Pas du tout, je peux vous le dire, j'ai même fait sous Mobutu deux fois la prison.
Vous savez, et après la prison,
attendez,
vous êtes allié au régime.
Attendez, non, je vais vous expliquer. Donc, aussitôt que j'ai mis fin avec ou mon expérience internationale au niveau de l'agence Reuters, qui a fait que quand les états généraux de la communication ont été annoncés, j'ai été élu président des états généraux de la communication du Zaïre. Et j'ai été élu président du comité de suivi des états généraux du Zaïre. Je suis toujours d'ailleurs aujourd'hui président du comité de suivi des états généraux de la communication du Zaïre. Et donc la loi sur la presse, eh bien c'est moi l'un des pères fondateurs. Nous avons battu le pavé jusqu'au Parlement. Alors, donc, mon expérience internationale, après que j'ai pu mettre, j'ai mis fin à Reuters, au bout de 11 ans, je me suis dit, attendez, j'ai une énorme expérience et il faut que je puisse faire participer, faire bénéficier cette expérience de la presse à mon pays. Voilà comment j'ai créé le premier magazine Finance, tout en couleur. C'était la première fois qu'on avait, après le Zaïre, après ce qu'on appelait la revue Zaïre, bien sûr, je pense que Finance était le premier magazine, tout en couleur économique. Et quand l'ouverture démocratique est arrivée, gérer un magazine assez, c'est assez lourd, ça demande beaucoup de moyens. J'ai donc fait ce qu'on appelle aujourd'hui le soft. Mais avant, c'était devenu le soft des finances. Si vous voulez, ce n'était plus foncièrement économique, financier. C'était en fait ça, finance. On a voulu en faire un soft, c'est-à-dire qui est beaucoup plus généraliste et qui sort plus souvent. Alors, vous me dites si j'ai été financé par le régime Mobutu ? Pas du tout, pas du tout. J'ai même eu sous Mobutu que des adversaires, que des ennemis. J'ai fait deux fois la prison. Une première fois, c'est Birindwa Foster qui m'a mis en prison parce qu'il y a eu un article du soft qui n'était pas de son goût. Une deuxième fois, Léon Kengwadondo m'a mis en prison. Et heureusement que, vous savez, une anecdote posait la question à Tundu Lyongo. C'est lui, à l'époque, patron, l'un des patrons de l'ANR. J'étais sous sa garde. Et c'est lui qui m'a interrogé dans les geôles de l'ANR. Et je n'étais pas facile, madame. Donc, mais Mobutu, je le rencontre.
Mais vous avez fini quand même par travailler avec Mobutu, même si vous avez mis en prison deux fois.
Je vais vous expliquer. J'ai travaillé sous Mobutu par accident. C'est l'histoire. L'AFDL est à Kenge, je crois. Et à ce moment-là, Kengwadondo tombe, eh bien, on nomme le général Likuya Premier ministre. Alors, le général Likuya cherche des équipes, une équipe, à composer une équipe, et il lui faut des gens de première force. C'est bien ce qu'il m'avait dit. Alors, il prend commandant commandant, il prend le général Ilunga, qui est mort, qui a fait Saint-Cyr, il prend Mayele. Tout ça au
et vous prend comme porte-parole de ce gouvernement et qui n'a duré que 33 jours.
À ce moment-là, 40 jours on a fait. 45 jours chrono. Et à ce moment-là, il nomme Nzanga Mobutu, le fils Mobutu, ministre de la communication. Ça, c'est le général premier ministre Likuya. Alors, Nzanga va voir Likuya, dit, attendez, vous me nommez moi, ministre de l'information, je suis en train de parler au Congo entier et à la planète, parce que votre radio est écoutée partout, c'est une vérité. Nzanga m'écoute, Nzanga va dire à Likoula, attendez, vous vous trompez, moi je ne m'y connais pas grand chose dans la communication, mais je connais quelqu'un qui s'y connaît, qui va vous aider, voilà. C'est comme ça qu'il va présenter mon nom à Likoula, Likoula va l'amener à Mobutu et mon nom va être cité au gouvernement. J'ai jamais prêté serment, j'ai jamais été payé, 45 jours chrono.
Vous avez travaillé comme bénévole dans ce gouvernement? Vous n'avez pas touché un seul rang?
Ben, posez la question de Singa Uju Ungwankebi Untube. Eh bien, c'est lui qui s'était chargé de nous payer. Au moment où il devrait nous payer, Nsinga est en vie. Au moment où il devrait nous payer, il s'est retrouvé en Afrique du Sud et puis Kinshasa est tombé.
Et c'est cette colère-là qui vous a poussé ou qui vous avait poussé à annoncer la fuite du maréchal à la télévision?
Pas du tout, je n'étais pas en colère.
Ou c'était pour vous attirer la sympathie de ceux qui arrivaient?
Ah non, pas du tout. Pas du tout, je vais vous expliquer comment s'est passé ces derniers jours. Là, je me rappelle, jeudi, j'avais rendez-vous avec mon ami Nzanga Mobutu au camp militaire tout proche, où se trouvait la maison de son père, et on avait rendez-vous à 17h. Et c'était un garçon tout à fait correct, chaque fois qu'il me fixait rendez-vous, il était là. Et donc j'arrive, je me présente à l'entrée du camp militaire, on me dit non, Nzanga n'est pas là. Alors je trouve ça bizarre, je dis c'est pas possible. Nzanga ne peut pas m'avoir fixé rendez-vous et qu'il ne soit pas là. Alors tout de suite, j'ordonne, j'étais dans la voiture officielle, j'ordonne à mon chauffeur de faire demi-tour. Je dis ça sans mauvais. On rentre à la maison le jeudi et puis le lendemain, vendredi, on avait conseil des ministres. Le matin, à 8h, je suis en route en train d'aller à l'hôtel du conseil. Je reçois un coup de fil de Lenny, tout le monde le connaît, qu'il m'excuse, je suis un peu ému, vous voyez, et qui était à l'époque DGA à la SONAS, Ilondo, voilà, le nom me revient, il me dit, man, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle, le président Mobutu est en train de partir. Il dit, il part où? Ah ben, il part, il va à l'aéroport, c'est fini. Il dit, ah tiens, ok. Je roule jusqu'à l'hôtel du gouvernement et je vois tous les ministres qui étaient là. On attendait les premiers ministres, on attendait les généraux qui n'arrivaient pas. Et puis, ils arrivent 2 heures plus tard, je crois. Donc, le conseil des ministres a commencé en retard. Il n'a pas eu lieu. Et finalement, Mayele dit, bon, bah, écoutez, il faut vous organiser, il faut surtout vous passer entre vous le téléphone, tout ça, il faut savoir comment mettre en place un plan d'évacuation. Je regardais tout ça et j'ai compris que certains, déjà au moment où on parlait, étaient de l'autre côté à Brazzaville. Alors après, le Premier ministre, Likoula, me fait venir dans son bureau avec Mayele, avec Ilunga, Chamambo, avec l'ancien patron de l'ANR, Chimbombo Mukuna, il me dit, voilà, nous sommes une équipe de crise. Comment on va fonctionner? D'abord, le conseil des ministres, comment on fait? Le compte rendu, j'ai dit, il est coulé, mais il n'y a pas eu le conseil des ministres. Il dit, non, écoute, monsieur le ministre, vous êtes un homme intelligent, il faut faire un compte rendu. Je me mets à l'écart, je réfléchis, je dis, ben, écoutez, il n'y a qu'une chose à faire, annoncer le départ du président de la ville et donc du pouvoir, et organiser la remise reprise où on remet le pouvoir, on donne le pouvoir au cardinal Monseigneur. C'est comme ça,
en annonçant la fuite ou le départ du maréchal, est-ce que vous n'avez pas pensé que ça augmenterait la psychose au sein de la population?
Alors, je reviens voir le général avec mon texte et je lui lis devant une de vos consoeurs aujourd'hui qui est députée du PPRD. Alors, je lui dis, voilà, j'annonce le départ du président de la ville et donc du pouvoir et donc je remets le pouvoir entre les mains de Mosengo et je décrète le couvre-feu. Alors je viens à l'hôtel du conseil d'initiative propre. J'annonce donc le départ du maréchal de la ville et du pouvoir et je dis désormais c'est Mosengo qui va exercer cette vacance de pouvoir. C'était devant quelques 500 journalistes étrangers et puis après j'entre dans ma voiture, je pars. Et la ville était déjà sens dessus parce que dans l'heure qui suivait, j'étais sur tous les médias. Le soir, on a annoncé le décès, la mort du général Mayele.
Mais vous-même, vous n'aviez pas eu peur pour votre sécurité, pour votre vie?
Je ne me reprochais absolument rien, madame. Ça, je peux vous l'assurer. Je suis rentré après mon compte-rendu directement chez moi, là où j'ai toujours habité. J'ai pris un petit verre. Après, j'ai retrouvé mes journalistes qui travaillaient. Et j'ai rédigé le dernier papier du soft qui est resté absolument historique, la fin de l'histoire.
C'était pas pour vous attirer la sympathie de la personne qui est arrivée.
Mais non, pas du tout, madame. Pas du tout.
Mais pourquoi vous êtes allé en exil, vous, Tryphon Tshinkai Moulumba, si vous ne vous reprochiez de rien?
Exact. Bonne question. Très bonne question. Donc, à 6h du matin, le samedi, parce que Mobutu est parti le vendredi, à 6h du matin, mes journalistes me réveille, je suis un peu sous le coup de l'émotion, il m'annonce la mort du général Maïlé. Ah, je dis, qu'est-ce que je fais? J'avais toute une despée qui me gardait, qui était partout. Alors le journaliste me propose de partir de la maison. Je suis donc parti à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne, un ami, il s'appelle Bonneman. Et j'arrive là-bas et je trouve Chimbombo Mukuna qui m'écoute, je trouve Fundwawe Tepe Mako qui m'écoute, je trouve une dame qui travaillait à l'époque à Sabena, voilà, Madame Santos, et on était là. Et qu'est-ce qu'on fait? Et je vois que tout le monde était en train d'échafauder de plans pour partir, et j'ai pas compris, voilà comment nous sommes partis dans, si vous voulez, comme ça, on est partis par le fleuve.
Vous êtes partis parce que vous avez trouvé vos collègues à l'ambassade?
Non, parce que l'ambassadeur, qui était un ami...
C'est lui qui vous a conseillé de partir?
D'abord, il m'a accueilli. Il me dit, mais on ne peut pas vous garder longtemps, parce qu'on a passé un accord avec ces gens qui arrivent, mais on ne le contrôle pas, ils peuvent pénétrer dans nos maisons, donc je vous propose de partir. Voilà comment je me suis retrouvé à bord d'une pirogue, avec Chimbombo Mukuna, Vundo Tepe Mako et moi-même à toi, on a passé le fleuve et en face c'était moi. J'avais tous mes papiers, je suis parti directement à l'aéroport, j'ai pris mon Air France à l'époque, j'ai pu le lendemain me retrouver à Paris, puis à Bruxelles, et arrivé chez moi, j'ai vu les images qui annonçaient que c'est qui était arrivé.
Ça a été tombé.
Voilà.
Après un exil, vous rejoignez le RCD à Goma.
Après l'exil,
vous avez passé combien de temps en exil, hein? Une année?
Si, quand même, hein, bien plus, parce que dès que j'arrive en exil, on reprend contact avec, par le billet de bien d'émissaire. Tous ceux qu'on disait mouboutistes étaient contactés par l'AFDL et ils sont venus me voir. Nous nous sommes retrouvés tous là. Tous ceux qui sont aujourd'hui, d'ailleurs, finalement, au pouvoir, tous étaient là. Et nous nous sommes retrouvés et quand l'idée du RCD est arrivée, voilà, un mouvement pour la démocratie, je me suis dit, mais plutôt que de rester en Europe où il fait froid, pourquoi ne pas repartir en Afrique? Voilà comment je rejoins
Goma. La rébellion.
Voilà.
Pour combattre le pouvoir, le régime de l'Ardèle.
En effet, madame.
Qu'est-ce que vous reprochez à ce régime-là?
D'abord, je vais vous dire une chose. La contestation est toujours positive. C'est la contestation qui a toujours fait évoluer la société. S'il n'y a pas de contestation dans la démocratie, ainsi, eh bien, on a face à vous des régimes figés. Donc, j'ai rejoint la rébellion et j'assume, avec beaucoup de gens comme Mende, j'ai retrouvé là Ndundo, Lunda Bololou, Tambo Mwamba, plein de choses, Banza Mukalai.
C'est des gens qui ont travaillé avec Mobutu. C'est les noms que vous citez. Hein.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et donc, c'était des Mobutistes qui ont décidé d'aller rejoindre la rébellion.
Écoutez, qu'est-ce que vous leur reprochez? C'est des Congolais. Donc, je me suis retrouvé avec eux là-bas, et à l'est, à Goma, un pays que je ne connaissais pas, mais j'ai pris tout le plaisir de le connaître comme chef de département de la culture, d'abord, puis après que Mende soit parti, comme chef de département de communication, porte-parole, en effet. Mais entre-temps, quand j'ai pris un congé en Europe, je vais apprendre que le RCD avait tué, plus précisément égorgé, beaucoup de compatriotes congolais à Kisangani, et des policiers congolais à Kisangani. Les médias, vos médias, vous en avez fait large écho.
Vous décidez de claquer la porte.
Voilà, j'ai estimé...
Pour aller vous réfugier au Rwanda.
Non, pas du tout. Mais qui vous dit ça? Mais attendez, vous êtes en train de vous écrivez l'histoire, j'imagine, dans cette
sûr,
émission.
Bien sûr, c'est vous qui allez nous donner, nous parler de cette histoire, de
voilà.
La réalité.
Après, quand j'apprends cela, eh bien, je suis révolté. Je préférais claquer la porte au RCD parce que je me suis trouvé scandalisé par ce que j'apprenais. Mais il fallait...
C'est en quelle année que vous avez claqué la porte au RCD?
Comment?
C'est en quelle année que vous avez quitté
Madame,
le RCD?
Madame, vous me posez des questions comme ça, je n'étais pas très préparé. Après le dialogue intercongolais de Sun City, immédiatement après...
Mais lorsque le RCD avançait vers qui Kinshasa, lorsqu'on a coupé Inga, vous faisiez partie, vous étiez encore membre de ce parti?
Lorsqu'on a coupé, non, je n'étais pas encore à Goma. Quand le RCD a fait la tentative de prendre Kinshasa, je n'étais pas à Goma, j'étais à Kinshasa.
Vous étiez membre du parti, vous aviez déjà quitté le parti?
Non, non. Vous savez, quand le RCD a voulu prendre Kinshasa, c'était au tout début du RCD. Je n'étais pas encore au RCD. J'ai rejoint le RCD plus tard. Je vous ai dit que quand je suis arrivé au RCD, il y avait d'ailleurs l'anecdote. Quand moi j'arrive au RCD, on m'a arrêté. J'ai été arrêté avec Lwakabwanga. On a atterri à Goma avec Lwakabwanga, le député. Aussitôt qu'on est arrivé, on nous a arrêté. Et on m'a renvoyé en Europe par Gisenyi. Et j'ai pris mon avion le lendemain, j'arrive à Kigali, je reprends mon avion le soir, et là, des coups de fil commencent à retentir, c'est pas possible, c'est une mauvaise image, c'est un mauvais message qu'on envoie aux Congolais, des Congolais qui arrivent ici, chez eux, dans leur pays, on ne veut pas les accueillir, voilà. Donc, je n'étais pas là, j'ai rejoint le RCD bien plus tard, et je l'ai quitté bien plus tôt.
Mais lorsque vous avez quitté, est-ce que vous n'êtes pas resté un moment au Rwanda, à Kigali?
Oui.
Ou vous avez relancé votre journal?
Mais attendez, justement, quand j'ai quitte le RCD et que le gouvernement est formé ici et que je ne me retrouve pas et j'arrive à Goma, puis finalement il n'y avait pas d'infrastructure, il fallait que je relance les soft en effet comme vous le dites, il n'y avait pas d'infrastructure, mais il y avait des infrastructures à Kigali qui étaient très très développées et donc je me suis installé à Kigali où j'ai relancé le journal, le soft international. Qui à l'époque s'appelait le Soft Grand Lac, voilà.
Vous claquez la porte au RCD.
Oui.
Un parti, une rébellion soutenue par le Rwanda.
Oui.
Puis après, vous allez au Rwanda pour y travailler.
Oui, mais on ne va pas vous dire que tous les Rwandais étaient pour rébellion. Vous le savez, vous connaissez l'histoire. Il y a des Rwandais qui étaient contre la rébellion. Donc, qui n'acceptaient pas que leur pays se mêle des affaires de leurs voisins.
Vous n'avez pas travaillé avec le président Kagame comme... conseiller.
J'ai eu cette chance, pas comme conseiller, les gens disent que j'étais son conseiller, non. J'ai eu cette chance de le connaître. Vous savez, dans la vie, il faut connaître les gens, c'est ça qui fait l'histoire. J'ai eu la chance de le connaître et j'étais là avec une équipe de journalistes, nous faisions le soft et j'ai eu cette chance non seulement de le connaître, mais de connaître son épouse, Jeannette. Kagame et son entourage.
Le connaître et travailler avec lui ou bien juste le connaître, c'était une connaissance et puis ça
s'est fini là. Je n'ai pas travaillé avec Kagame, pas du tout. Je n'ai pas eu un bureau où j'ai travaillé pour Kagame, pas du tout.
Voilà, Trifon Kinkei Mulumba, on va souffler un peu avant de parler de votre retour à Kinshasa. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Qu'est-ce que je n'aime pas dans la vie? Je déteste le mensonge. Le fait de ne pas dire la vérité aux gens, le fait de porter un masque, je déteste ceux qui portent le masque.
C'est quoi votre plat préféré?
Mon plat préféré, oh, le makayabu, j'adore, les fumbwa, je suis fou de ça. Mais un fumbwa un peu léger, un fumbwa light.
Vous aimez la musique?
Oh, la musique, oui, j'adore Franco, l'homme Makedi, j'adore celui qui nous a quittés, comment il s'appelait?
Taboulaye?
Non.
Kinkester?
Taboulaye, bien sûr, un homme de chez moi, mais je ne suis pas très 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 taboulé. J'adore l'homme, mais le nom ne me vient pas.
Qui nous a quittés, vous dites?
Oui, qui nous a quittés. Il non. Est un peu gros.
Madilou?
Madilou. Madilou System. J'adore. Je pense que c'est le plus grand qui soit.
Quelques chansons de Madilou qui vous viennent
en
tête comme ça?
Oh, il me fait pleurer. Il me fait pleurer quand je l'écoute. Il y a une chanson que j'adore, dont je ne connais pas le titre, mais que j'adore.
Prédonner un peu.
Okole Langaï, quelque chose comme ça.
Sa dernière chanson avant sa mort.
Voilà, Okole Langaï.
Mokolona Kokofa.
Mokole Langaï. Baranangaï, Wakende Paya.
Yambandate, c'est ça? Ah, d'accord, ok.
Ça me fait pleurer chaque fois que j'écoute cette chanson.
Alors, on va vous faire plaisir, hein, en vous proposant cette belle musique de...
Mais les tristes, non?
On va changer alors.
Ben, j'en sais rien.
Mais vous avez dit que vous aimez bien la chanson.
Une chanson que j'adore. Oh là là, vous me prenez au dépourvu. Tingro qui a joué avec Tabouley, que j'adore énormément, un homme du Bas-Congo. Mais les titres ne me viennent pas. Sacramento, voilà.
Sacramento. On va trouver cette chanson pour vous, Monsieur le ministre Trifon Kinkey, pour votre plaisir et pour le plaisir de tous ces auditeurs qui nous suivent. Je rappelle, partout en RDC et même à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiocapi.net. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Parcours et se livre à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Grand justement vous fait découvrir aujourd'hui Tryphon Kinkey Moulumba, professeur d'université, journaliste en politique congolais. Il est actuellement ministre des Relations avec le Parlement. Monsieur Tryphon Kinkey, vous revenez en 2006 à Kinshasa.
Puisque vous le dites, je vous crois.
En 2006, vous venez à Kinshasa pour vous présenter comme député national.
Voilà, absolument.
Vous êtes élu dans la circonscription de Massimanimba.
Je suis élu dans la circonscription de Massimanimba alors que personne ne m'a donné aucune chance, comme personne n'a donné aucune chance à un candidat indépendant. Pourtant, cette assemblée-là a pu être formée avec environ 60 députés candidats indépendants, donc députés indépendants. Je pense que pour se faire élire, en effet, il fallait mobiliser une machine de parti pour se faire élire lorsqu'on était indépendant. Donc il fallait mettre beaucoup plus de moyens. Et nous nous sommes retrouvés là, une petite belle bande avec qui donc Modeste Bahati, Atanas Matenda, Tamboué Mwamba, Banza Mukalai, moi-même, et voilà comment nous avons formé le premier groupe, je dois dire, le plus important de l'Assemblée nationale, le groupe de parlementaires indépendants GPI.
Proche de la majorité.
Majorité, pas proche de la majorité, des indépendants qui ont pris leur adhésion à la majorité.
En 2011, vous êtes réélu comme député.
En 2011, je suis réélu sans problème, le seul de mon territoire, de ma circonscription à être élu. Tous les autres ont été battus, et voilà.
On dit que les billets des banques ont circulé.
Ah, c'est bizarre, billets des banques. Vous savez, quelqu'un m'a accusé d'avoir reçu 2 millions de dollars d'Augustin Kekatmoumouanké, Dieu et son âme. Je n'ai jamais rien reçu, mais les accusations gratuites comme ça pleuvent. Quel billet de banque ? J'ai jamais reçu de l'argent, ni de la majorité présidentielle, ni de qui que ce soit. Je témoigne.
Vous savez, n'avez peut-être pas reçu, mais vous avez donné, distribué de l'argent à Manimba.
Bon, vous savez.
Pour casser les autres candidats.
Bon, écoutez, distribuer de l'argent. Vous savez, on vit dans un monde tellement pauvre. Mais beaucoup de députés, face à la misère, vous n'avez peut-être jamais été, il faut venir. Comme il y a une semaine, j'étais dans Massimanimba, j'ai vu des femmes accouchant à même le sol. Vous faites quoi? Vous allez visiter des écoles, vous trouvez que des enfants étudient dans des conditions atroces. Vous faites quoi?
Les 5 chantiers ne sont pas passés par là? Ou pas encore?
Les 5 chantiers ne passeront pas dans tous les coins et recoins du pays, madame. Vous le savez très bien. Avec un budget de 6 milliards de dollars, peut-être de 5 ou 4 milliards de dollars. Mais vous savez d'où l'on vient? On vient d'un budget de 300 millions de dollars. Vous ne pouvez pas donner le bonheur à tous les Congolais, c'est pas possible.
Alors en 2012, vous êtes nommé ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication dans le gouvernement Matata 1. Vous avez préféré aller travailler au gouvernement que de rester à l'Assemblée?
Mais écoutez, quand le destin vous appelle, moi je crois beaucoup au destin. Quand le destin vous appelle, j'ai été sollicité plusieurs fois pour être membre du gouvernement, depuis Gizenga 1, Gizenga 2, depuis Mouzito, et puis Matata est arrivé. Et on m'a posé la question, si ça m'intéresserait de rentrer au gouvernement, qu'est-ce qui me plairait? J'ai cité mes préférences, puis finalement, je me suis retrouvé au poste de télécommunication, nouvelle technologie de l'information et de la communication, qui n'existait pas avant.
Pour le compte de votre parti, PA, Parti pour l'Action?
Bah écoutez, pour le compte de mon parti, effectivement, non, à l'époque, je n'avais pas encore de parti, j'étais une personnalité. Je me suis retrouvé là, mais entre-temps, effectivement, le parti avait été lancé. Voilà, j'ai donc pris mes fonctions.
Je ne vous accuse pas, je vous rapporte ce que moi j'ai entendu, que vous étiez impliqué dans beaucoup de malversations financières lorsque vous avez géré ce ministère.
Madame, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui m'interviewent. Je ne répondrai pas à ces questions-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que
On a cité votre nom dans les détournements de 14 millions de dollars destinés à la fibre optique.
N'importe quoi. Je pensais que vous étiez une radio informée.
Nous sommes informés, monsieur le ministre.
Donnez-moi...
C'est à vous de nous dire si c'est vrai ou c'est faux.
Mais vous devez... Il faut enquêter au lieu de venir affirmer comme ça. C'est pas possible. Il faut avoir la vérité. On ne peut pas lâcher, sinon moi aussi je peux vous accuser de tout.
Je ne vous accuse pas.
Non, on peut accuser aussi les journalistes d'aller truander des hommes politiques. Non. Je suis arrivé, madame, j'ai été nommé ministre de Pétentic. Une semaine après, j'ai reçu une interpellation d'Onkunji, député, une semaine après, disant pourquoi le Congo n'avait pas basculé dans le projet WAX des fibres optiques. Une semaine après, vous n'avez pas détourné 14 millions quand même. Vous ne connaissez même pas encore le secteur. Donc, j'ai été à l'Assemblée nationale répondre à toutes les questions de députés qui voulaient en savoir. Et pour que j'en sache, je me suis documenté. Et il y a eu effectivement le projet du point d'atterrage de Moanda. Le point d'atterrage de Moanda, par où arrivait la fibre optique internationale. On devrait construire ce point d'atterrage qui est une super logette, qui ailleurs a coûté 3 millions de dollars. Ici, on a présenté des factures de l'ordre de 14 millions de dollars ou 12 millions de dollars. Et finalement, personne n'avait su sortir cet argent. Puis quand, avec la BIAC, on a trouvé un accord, on a sorti cet argent, d'après les documents que j'ai vus, dans la journée, 3 millions de dollars sont sortis. C'est lui qui a donné toutes ces informations à la représentation nationale. Et c'est sur base de mes informations qu'une commission d'enquête parlementaire a été constituée. Présidée par qui ? Présidée par un frère de chez moi, Mayobo. Mais vous savez très bien, vous êtes journaliste politique, vous savez que... On n'a pas toujours de meilleurs rapports. Et nos pires ennemis sont souvent nos propres frères. Mayobo, qui est un frère, malheureusement, je n'ai pas d'excellentes relations avec lui, d'excellents rapports. C'est lui qui préside cette commission. Mais il a présidé pourquoi ? Justement pour venir plonger dans ces dossiers, voir s'il y avait de la saleté. Mais quand votre adversaire vient vous contrôler et qui ne trouve rien et qui va témoigner à l'Assemblée qu'il n'a rien fait. Mais comment pouviez-vous imaginer d'abord que je puisse faire quoi que ce soit? Rien. C'est une semaine après que cette affaire est sortie que j'ai été interpellé par l'Assemblée. Alors j'ai retrouvé les 14 millions ou le million ou les 500 000 ou les 10 000. Je peux vous dire une chose, madame. Vous savez, quand nous avons été inaugurés avec le président de la République le point d'atterrage de Moanda, ces jours-là, j'ai failli piquer une crise et je n'en revenais pas. J'avais fait quelques 6 voyages tout seul au volant de ma Jeep jusqu'à Moanda. Et Moanda, ce n'est pas la porte à côté. Et quand j'ai vu la fibre optique être réalisée, je me dis, j'ai permis à la République d'approcher, si vous voulez, la civilisation. Et au moment où je partais, la terre entière était prête à nous fêter à Doha, parce que le pays avait pu, à Doha, au Qatar, parce que le pays avait été mis à niveau. Reconnu.
Merci, monsieur le ministre. Alors, vous êtes président du parti PA, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi, PA, c'est un parti membre de la majorité présidentielle, mais vous êtes aussi l'initiateur de Kabila Désir. C'est quoi ce slogan, Kabila Désir?
C'est pas un slogan, c'est une association Inasbel. Inasbel qui est née, je vous ai dit tout à l'heure que je détestais cordialement le mensonge. Je détestais cordialement le masque. Et j'ai écouté sur vos radios plusieurs personnes destinant Kabila à la CPI, la Cour pénale internationale. Et je me suis dit, c'est pas possible. Quelle population il a génocidé? Quand je vois comment ce pays s'est mis debout, quand je vois comment ce pays commence à marcher, quand je vois que les mamans au marché et les télécommunications, parlons de télécommunications, dont les prix sont aujourd'hui fixés en francs congolais, signe de grande confiance. Quand je vois comment notre belle ville, comment, c'est vrai, à Massimanima, il y a toujours la misère, mais il faut commencer quelque part. Je me dis, face à ces déluges de mensonges, face à ces dénis de vérité, il y a un devoir de vérité. Il faut commencer par réhabiliter l'homme. Il faut commencer par faire reconnaître l'œuvre. Voilà.
C'est ça qui vous a poussé à créer Kabila Désir.
Exactement. Exactement. Et je pense que le combat politique, c'est un combat qui doit se dérouler dans la dignité, dans le respect de l'autre. Le débat politique doit se dérouler dans la dignité. Sur vos ondes, on entend beaucoup d'injures. Je pense que ça
on tolère pas l'injure, monsieur le ministre, sur nos ondes.
Ça nous
déconsidère.
J'écoute.
On tolère pas
l'injure. Pas beaucoup Radio Capi, mais j'écoute Radio Capi. Lorsque vous faites des débats, il y a des mots qui dépassent. Et j'estime que vous êtes une radio internationale, vous devez rester à niveau. Donc, je vous ai dit, c'est pour restaurer une image, c'est pour réhabiliter un homme, son œuvre, que je me suis senti dans le devoir, dans l'obligation de créer cette association.
Toton Dinanou Kabilaté, ça veut dire quoi? Que vous, vous estimez...
Essilité,
voilà. Ça veut dire qu'il doit rester encore au pouvoir pour achever ou parachever ses œuvres.
Vous m'avez tout à l'heure, madame, proposé que je vous cite une chanson que je connais, que j'aime. Vous connaissez Bououlé, la chanson Bououlé?
Oui, je connais.
Ah, j'aimerais bien que vous puissiez la jouer, que vos auditeurs l'entendent. Vous avez un ami qui a été tout pour vous et il vient vous quitter. Ou il part. Vous dites quoi? Vous dites Totunda Kiyonanute. Bossanayo ici l'a quitté.
Ben c'est ça que je suis en train de dire. Donc
oui.
Vous voulez qu'il demeure, qu'il reste encore président, même au-delà de son mandat, de ce que la Constitution prévoit.
C'est l'envie, c'est le souhait exact, légitime.
Le souhait, ça veut dire que vous, la Constitution, ça ne vous dit rien. Ben si c'est votre, c'est le souhait, l'envie.
Alors on va déplacer les débats. Vous me parlez des choses austères. La Constitution, c'est très austère. Mais vous me parlez de la Constitution. La Constitution, c'est un texte que nous avons écrit à Sanusité, que les hommes ont rédigé à Sanusité. Ce sont les hommes qui doivent pouvoir aussi réécrire une nouvelle Constitution.
Est-ce que cette Constitution ne peut pas être révisée après le mandat de l'actuel chef de l'État?
Mais si tel est le consensus des Congolais, que la Constitution soit révisée après les deux mandats, eh bien allons-y. Mais si également le consensus de Congolais et de réviser la Constitution avant, il faut la faire.
Vous êtes pour le glissement?
C'est quoi le glissement?
Aller au-delà du mandat présidentiel prévu par la Constitution.
Pour qui?
Pour l'actuel chef de l'État.
Mais, attendez madame, les députés provinciaux sont dans ce que vous appelez glissement. Les sénateurs sont dans ce que vous appelez glissement. Mais pourquoi voulez-vous que cette illégitimité puisse être acceptée pour les députés provinciaux, pour les sénateurs, pour les gouverneurs, qu'elles ne puissent pas être acceptées par d'autres?
Monsieur le ministre, si je vous comprends bien, c'est, pour vous, c'est le président Joseph Kabila qui est la personne qui peut garantir le maintien de la paix, qui peut emmener le Congo vers l'émergence.
Mais écoutez, moi je vous dis, le président Kabila a donné l'épreuve ou la preuve de sa capacité à conduire ce pays. Il a donné la preuve de sa capacité à mener ce pays à l'émergence. Et je dis, si le peuple congolais pense qu'il a un rôle à jouer dans ce pays, c'est le peuple congolais souverain. Et moi, j'ai crié Kabila Désir parce que j'ai voulu m'opposer à ce déluge de mensonges, à ce déni de vérité. C'est important, madame.
Alors, vous faites un peu l'avocat du président Joseph Kabila?
Non, je suis pour la vérité. Je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Et on ne peut pas le dire ici. J'ai crié Kabila Désir. Le président Kabila n'était pas au courant. Je ne lui en ai jamais parlé. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu l'occasion de lui en parler. Pas j'estime que ce n'est pas nécessaire.
C'était un plaisir de vous recevoir dans ce studio, monsieur le ministre Trifon Kinké. J'ai oublié de vous poser une question. Vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Je suis marié, je suis père d'enfants, oui.
combien d'enfants?
Bah, c'est, ça, c'est le privé. Vous voulez que je l'étale?
Ben oui, on parle de vous.
Ben, je suis marié et père, c'est clair.
D'accord, on a compris. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais le professeur Kinkai Mulumba, professeur d'université, journaliste et homme politique congolais. Il est actuellement ministre des Relations avec le Parlement. Merci à Willem Lungamba qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.